Il me semble que l'année a passé tellement vite, puis on est déjà rendu là dans le temps des fêtes, et puis on se prépare pour ça. Donc, bien, premièrement, bienvenue à tous ceux qui sont ici ce matin. Vous êtes ici et vous voulez adorer le Seigneur avec nous ensemble, et c'est ça qu'on veut. On veut être nombreux à adorer Dieu. Dieu en est digne, et c'est vraiment, on veut vraiment que le Seigneur puisse bénir toute la région, toucher les cœurs. Et salutations à ceux qui nous écoutent vraiment par Internet. On sait qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout, alors on veut certainement les saluer. Eh bien oui, on est dans le temps des fêtes et on se prépare pour ça. Et c'est la raison pour laquelle on va commencer ce matin une mini-série sur l'incarnation de Jésus-Christ. Une mini-série qui va nous emmener jusqu'à Noël. Et puis l'incarnation de Jésus-Christ. Et ça, c'est Dieu qui quitte, c'est Jésus-Christ qui quitte le ciel et vient ici dans la forme d'un homme, d'un serviteur. Il vient comme un enfant, comme un bébé. Tu ne peux pas être plus vulnérable et plus fragile qu'un bébé. Et c'est Dieu, le Dieu de gloire, qui quitte son ciel et s'incarne en être humain. Et c'est ça qu'on veut regarder dans les prochaines semaines. Jean, chapitre 1, verset 14, dit ceci. « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et dans Jean 1, si vous vous rappelez, ça, l'image que Jean prend, c'est la parole. Il dit la parole, Dieu, Jésus qui compare Jésus à la parole, il est la parole vivante. Alors la parole était avec Dieu, il commence comme ça. Et la parole était Dieu. Alors, ça parle de la divinité de Jésus. Et au verset 14, ça parle de l'incarnation, comment la parole s'est faite chair. Donc, on veut vraiment regarder ensemble pendant les prochaines semaines l'incarnation de Jésus. Mais pour mieux apprécier l'incarnation de Jésus-Christ, pour vraiment comprendre l'ampleur, la grandeur, la signification de l'incarnation de Jésus-Christ, jusqu'où Jésus est allé, pour se faire petit, on a besoin de vraiment faire un recul et regarder, commencer en regardant plutôt la grandeur de Jésus. Une expression qu'on entend dans le temps des fêtes, hein, ça parle du petit Jésus. Et oui, Jésus s'est fait petit, absolument, un bébé, fragile, vulnérable. Mais nous voulons commencer cette série sur l'incarnation de Jésus-Christ en regardant avant, plutôt la grandeur de Jésus-Christ. Et dans la mesure qu'on va comprendre la grandeur de Jésus, on va vraiment apprécier encore plus l'incarnation de Jésus-Christ. Alors, c'est là qu'on va commencer. On va faire une série, mini-série, qui commence ce matin sur l'incarnation de Jésus-Christ. Et on commence ce matin en regardant la grandeur de l'incarnation. La semaine prochaine, on va regarder la portée de l'incarnation. Ensuite, le miracle, l'incarnation, le pouvoir de l'incarnation et la mission de l'incarnation. Mais juste avant, on va prier, si vous voulez bien, d'accord? Eh bien, Seigneur, on veut te remercier, on veut te bénir pour ta parole qui nous exhorte quand on a besoin d'être exhorté, qui nous reprend lorsqu'on se sent suffisant et orgueilleux, qui nous édifie quand on se sent brisé et démoli, qui nous instruit dans notre ignorance. Alors, Seigneur, merci pour ta parole où tu te révèles. Tu nous aides à connaître Jésus et à te connaître. Seigneur, on te prie que ton esprit nous accompagne ce matin, que ton esprit parle à nos cœurs et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, on commence avec la grandeur de Jésus ce matin et on va regarder l'Apocalypse chapitre 1. J'ai dit verset 3 à 18, mais on va plutôt, tant qu'à y être, hein, il manque juste une couple de chapitres pour faire une couple de versets pour faire le chapitre. Donc, on va lire le chapitre. C'est un peu long, mais il me semble le couper, ça l'enlève un peu toute l'ampleur de ce qui est révélé ici dans ce chapitre. Donc, tournons ensemble dans l'Apocalypse, chapitre 1. C'est le dernier livre de la Bible. Alors, si vous n'êtes pas trop familier avec la Bible, c'est beaucoup plus simple. Vous tournez dans le dernier livre, et premier chapitre, donc c'est quand même relativement bien, c'est simple. Donc, Apocalypse chapitre 1, on commence au verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui se trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était, qui vient. De la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, à Thyatire, à Sardes, Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu et ce qui doit arriver ensuite. » Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans la main droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Eh bien, le livre de l'Apocalypse a été écrit pour encourager les chrétiens qui étaient durement éprouvés lors du premier siècle. L'Apocalypse a été écrit à peu près dans les années 90 de notre ère. Donc, il y a eu déjà en 70, quelques années avant, la destruction du Temple, Jérusalem a été rasée, mais c'était particulièrement difficile pour les chrétiens, parce que le christianisme était rendu illégal à ce point-ci. À la fin du premier siècle, le christianisme est devenu une secte, on la considérait comme une secte religieuse, qu'on détestait, qu'on méprisait, même jusqu'à l'Empire. L'Empire romain détestait le christianisme. Et la haine remontait jusqu'au gouvernement, par exemple, le gouverneur romain, Pline le Jeune, s'est même moqué du christianisme en le qualifiant de superstition dépravée et extravagante. Maintenant, les Romains considéraient les chrétiens déloyaux. Ils les traitaient de traîtres car ils refusaient de reconnaître César comme l'autorité suprême. Et les chrétiens refusaient d'offrir à l'empereur des sacrifices d'adoration obligatoires. Difficile à croire et à imaginer, mais on considérait même les chrétiens comme des athées parce qu'ils rejetaient les dieux romains, ces idoles qu'on adorait, et eux adoraient un dieu invisible. Alors, c'est plus facile d'adorer une idole faite de bois ou de pierre il disait, nous, on adore un Dieu qu'on voit, même s'il répond pas, même si c'est du bois, c'est même pas vivant. Mais les chrétiens, eux, adoraient un Dieu invisible. Alors, on les méprisait, on les traitait même d'athées à cause de cela. De fausses rumeurs aussi circulaient que les gens ne comprenaient pas certaines pratiques du christianisme, de l'Église. Alors, on a commencé à les accuser de cannibalisme, d'inceste même, et d'autres perversions sexuelles. On accusait aussi les chrétiens de faire chuter l'économie. Pline le Jeune, justement, se plaint au gouvernement qu'on avait déserté les temples païens et que ceux qui vendaient des animaux sacrificiels trouvaient peu d'acheteurs à cause de l'influence des chrétiens. Et certains Romains craignaient que négliger les dieux païens ne leur attire une catastrophe naturelle par vengeance. Alors, les chrétiens dérangeaient. Ça dérangeait. Alors, on a identifié les chrétiens comme des adorateurs d'une religion illégale, et de là, nous avons la persécution. Alors, les chrétiens sont persécutés, sont assiégés, découragés, et ils ont désespérément besoin d'encouragement. C'est alors que Dieu donne sa révélation sur ce qui s'en vient et présente Jésus dans sa gloire. Et les chrétiens ont été grandement encouragés d'apprendre que Jésus allait revenir et de se rappeler que Jésus allait revenir un jour dans sa gloire et triompher de ses ennemis. Alors, on peut comprendre la raison pour laquelle les chrétiens, à travers l'histoire, lorsqu'ils vivaient des moments de persécution, ont trouvé un grand encouragement avec le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est devenu, à travers les siècles, vraiment un livre de grande consolation pour les chrétiens qui passaient par des moments tellement difficiles par la persécution. Pour nous qui vivons dans le premier monde, on a difficulté à saisir un peu l'épreuve, la densité des épreuves de ces gens qui vivent dans le tiers-monde, parce que pour nous, la qualité de vie est de loin supérieure et meilleure. On a besoin de se rappeler, par exemple, que la majeure partie des chrétiens à travers le monde entier vivent dans le tiers-monde. Ils sont donc démunis, pauvres, et plusieurs d'ailleurs à travers le monde sont persécutés pour leur foi. On le dit à quelques reprises que les chrétiens, maintenant, aujourd'hui en 2015, les chrétiens sont plus persécutés qu'ils ne l'ont jamais été à travers l'histoire de l'Église à travers le monde. Et d'ailleurs, quand on regarde les chrétiens à travers le monde, ils sont même plus démunis, plus pauvres que dans les derniers 3 siècles. Et c'est la raison que le Seigneur nous a donné cette révélation afin d'encourager les chrétiens alors qu'ils font face aux défis de la vie et aux épreuves. Être chrétien aussi est un combat spirituel. Et nous vivons tous ce combat spirituel. Et nous pouvons certainement se retrouver un jour très découragés, écrasés par ce combat spirituel. Alors, l'Apocalypse nous est donné afin de nous fortifier. On regarde l'avenir et ça ne semble pas s'améliorer avec tout ce qui se passe avec le groupe ISIS. J'ai lisé le journal de Montréal, avec tout ce qui se passe à Bruxelles. Imaginez, on n'aurait jamais imaginé cela il y a quelque temps. On est obligé de fermer les centres d'achat, fermer les métros, fermer les restaurants. On est rendu là, même des grandes puissances dans le monde, des pays qui sont forts comme les États-Unis, le Canada, un peu à travers le monde, à certains endroits. Et là, tout d'un coup, on se sent vulnérable, on se sent faible, en danger, menacé. Alors qu'on vit dans un pays qui est réputé, reconnu pour vivre en paix, tranquille, tout d'un coup, on se sent vulnérable. Et ça, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Comment on agit comme enfant de Dieu? Comment réagir? Eh bien, posons-nous la question, quel est le message que le Seigneur a donné à ces premiers chrétiens qui, eux, vivaient tous les jours sur la menace d'être emprisonnés, envoyés, crucifiés, mourir? Alors, quel est le message que le Seigneur leur donne à eux qui vivent ces moments de grande persécution? Eh bien, le message, dès le premier chapitre, est bien clair. Le message est celui-ci, « Vis comme si Jésus revenait demain. » Et c'est ça que le message qui nous est livré dans ce premier chapitre de l'Apocalypse, « Vis comme si le Seigneur allait revenir. Vis à la lumière de la fin des temps. Vis comme si Jésus allait revenir aujourd'hui. » Mais pourquoi? Pourquoi c'est nécessaire pour nous, pour chacun d'entre nous, de vivre comme si Jésus allait revenir aujourd'hui? Mais premièrement, parce que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Le premier chapitre est majeur du livre de l'Apocalypse et donne le ton pour le restant du livre. Jean commence avec une louange et il dit au verset 4, il dit « De la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. » Celui qui est, qui était et qui vient. Une expression qu'on va retrouver plus de quatre fois dans l'Apocalypse et qui donne à penser, rappelez-vous, du nom de Dieu donné à Moïse, alors que Moïse est mandaté d'aller voir le peuple d'Israël alors qu'il est esclave et il veut libérer le peuple juif des mains de l'Égypte, de l'esclavage. Et là, Moïse, devant Dieu, reçoit cette mission, ce mandat. Et Moïse dit, « Oh, mon ami, je vais aller voir les Juifs. » Les Juifs vont me dire, « Mais pour qui tu te prends? C'est quoi? Quel est le nom de ton Dieu, de Dieu? » Et là, Dieu dit, il demande le nom à Dieu et Dieu dit, « Mon nom est Yahvé. Je suis celui qui suis. » En d'autres mots, prends n'importe quelle époque de l'histoire, je suis. C'est au présent. Je suis éternel, c'est ce qu'il est en train de dire. Ici, on retrouve exactement la même chose. Je suis, j'étais et je serai. Je viens, je m'en viens. Et pour des chrétiens qui souffrent, c'est important de s'en rappeler. Je contrôle l'histoire. Tout ce passage donne le portrait que Dieu est au centre de tout ce qui se passe dans l'histoire. Dieu est en train de nous dire, j'ai contrôlé le passé, je vais contrôler l'avenir, alors tu peux me faire confiance pour ton présent. C'est exactement le message qu'il est en train de dire. Je contrôle le passé, l'avenir et ton présent. Oui, amen. Il est le Tout-Puissant. Et dès le début, Dieu montre la centralité de sa présence. Dieu est tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien après lui. Il est le début, première lettre. Alpha, il est la première lettre et la fin. Tout se trouve dans le milieu. Le monde, l'univers. Et Dieu est au contrôle de toute l'histoire. Il n'est pas seulement éternel, mais il est également Tout-Puissant. On peut donc lui faire confiance. Il est en train de nous dire, je suis toujours au contrôle. Même si pour le moment, les forces du mal semblent avoir le dessus, je veux que tu te rappelles que je suis au contrôle, même là. Même si ça va mal dans ta vie, je veux que tu te rappelles, je suis au contrôle. Ne te laisse pas impressionner par le mal. Prends courage, je suis toujours au contrôle, malgré les apparences. Je suis, j'étais et je viens. Je suis au contrôle dans ton présent, dans ce que tu vis maintenant. Alors, on veut vivre comme si Jésus allait revenir parce que Dieu est au contrôle. Mais parce que Jésus revient aussi dans sa gloire. Regardez le verset 7. « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Oui, amen. Jésus est venu une fois sur terre, il y a près de 2000 ans. Il s'est incarné en quittant le ciel, en prenant la forme d'un homme. Il a vécu ici sur terre. Et après, il a été crucifié. Il a pris sur lui nos péchés. Il est allé à la croix, crucifié. Il est mort. Et trois jours après, il est ressuscité. Et nous voyons dans Actes qu'il monte au ciel. Et maintenant, il est dans sa gloire. Et ça, c'est la doctrine du retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus va revenir. Il est venu une première fois. Et il va revenir bientôt. Et Jésus revient pour juger le monde et qu'ils l'auront rejeté et bénir et sauver ceux qui auront placé leur foi en lui. La cloche va sonner. La récréation pour ce monde va se terminer. Pour les croyants, la récréation commence. Amen. Dans l'éternité, Jésus revient dans sa gloire. Ce livre parle plus de l'enfer que tous les autres livres de la Bible. Mais il parle aussi plus du ciel que tous les autres livres de la Bible. Voyez-vous, ce livre nous porte au plus haut du ciel et au plus creux de l'enfer. Jésus revient donc pour juger le monde qui l'aura rejeté et bénir ceux et celles qui auront placé leur foi en lui. Et grâce à Jésus, nous qui avons placé notre foi en lui, nous serons épargnés de l'enfer. Nous passerons tout de même en revue, nous devrons rendre des comptes pour la façon dont on aura vécu notre vie. Et Dieu va récompenser, va donner des récompenses pour la façon qu'on leur a servi. Oui, Jésus revient dans sa gloire. Et regardez comment Jean décrit Jésus-Christ. Jean commence en disant, au verset 5, « Jésus-Christ, le témoin fidèle. Tu veux connaître Dieu, tu regardes à Jésus-Christ. Jésus est le témoin fidèle de Dieu. C'est lui qui nous révèle Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Jean va nous dire ailleurs dans sa lettre, dans les évangiles. Au début, Jésus était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Nous l'avons contemplé, on a vu. Voyez-vous, voir Jésus, c'est voir Dieu. Il est venu pour révéler Dieu. Et si tu veux voir l'ultime révélation de Dieu, tu regardes à la croix. La mort de Jésus est l'ultime témoin. Vous savez comment peuvent changer comment les mots peuvent changer à travers l'histoire. Par exemple, si je disais ici, moi ce matin, je suis arrivé ici. C'est un exemple que je donne souvent à mes étudiants pour montrer comment un mot peut changer à travers les années. Et je dis aux gens, je dis, regardez, c'est comme si je disais, je suis arrivé ce matin à telle heure. Alors, je suis arrivé à l'église à telle heure. Mais quand tu t'arrêtes, tu regardes le mot « arriver », vraiment, tu regardes la racine et tout ça, l'étymologie du mot, la définition, bien, « arriver », ça vient d'un terme maritime. « Arrive ». Pourquoi? Parce qu'on se promenait en bateau, on voyageait en bateau. Et « arriver », donc c'est ça. Donc, si ce matin, je vous disais, « je suis arrivé à telle heure ce matin », la première chose qui vient à votre esprit, c'est pas que je suis arrivé en bateau. N'est-ce pas? Mais non, le terme a changé avec les années. Et de la même manière, le mot « témoin » a changé avec les années. D'ailleurs, jusqu'au moment où, à la rédaction de ce livre qui est l'Apocalypse, au moment où justement Jean écrit l'Apocalypse, le mot « témoin » voulait dire, c'est un terme judiciaire, un terme que l'on emploie d'ailleurs encore aujourd'hui, lorsque tu t'en vas au palais de justice, tu es un témoin. Alors, dans un sens, oui, ça veut dire « témoin », tu rapportes ce que tu as vu. Mais en même temps, alors que Jean est en train d'écrire l'Apocalypse, le mot est en transition et devient martyr, parce qu'en fait, le mot original, c'est ça, martyr, et prend le sens d'être un martyr. Et d'ailleurs, c'est ce sens que, à cette époque-là, quand ça commençait à vouloir dire, parce que Jean est en persécution, il y a des chrétiens qui sont en persécution. Donc, lorsque Jean dit « il est le témoin fidèle », dans le fond, il faut le voir dans les deux sens. Jésus est le témoin parfait de Dieu, il nous fait connaître Dieu, mais en même temps, il est l'ultime martyr puisqu'il a pris nos péchés sur la croix. Jésus est le témoin fidèle et on a besoin de nous rappeler ça. Car ce livre a beaucoup de choses à dire à ceux justement qui passent par ces moments de persécution, de grande persécution, ou qui passent par des moments difficiles. Un exemple, Apocalypse chapitre 12, on va associer justement la victoire au sacrifice de Jésus-Christ. Nous lisons, ils l'ont vécu. Les chrétiens ont vécu quoi? Les chrétiens contre le dragon qu'on voit dans le chapitre. Grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Les chrétiens peuvent faire face aux menaces, aux difficultés, aux épreuves en s'inspirant du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est la raison que, dès le début du livre de l'Apocalypse, on nous présente Jésus comme le témoin fidèle. L'un des buts de ce livre est de nous montrer comment faire face à l'opposition. Et maintenant, qui est le premier à faire face à l'opposition? C'est Jésus-Christ. Qui est le premier à mourir, à rendre témoignage? C'est Jésus-Christ. Alors, nous n'avons pas un Dieu qui nous dit, tiens, allez souffrir pour moi. Non, il est le premier à avoir souffert. Alors, le livre s'ouvre en nous présentant Jésus comme le témoin fidèle. Et c'est la clé pour faire face aux difficultés. Constamment nous rappeler, lorsqu'on vit des moments troubles, constamment nous rappeler les souffrances de Jésus-Christ. Mais deuxièmement, Jésus est également le premier-né d'entre les morts. Jean continue sa description et on le voit au verset 5. Il dit « Grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts. » Mais oui, vous allez dire, oui, mais il me semble que Lazare est ressuscité, absolument. Lazare a devancé Jésus en ce qu'il est revenu, il était mort puis il est revenu à la vie. Mais il est revenu à la vie avec son ancien corps, guéri, mais avec son ancien corps. Alors que Jésus est le premier à revenir de la mort avec le corps glorifié tel que décrit dans 1 Corinthiens 15. Troisièmement, Jésus est le chef des rois de la terre, verset 5. Il continue en disant, il est le chef des rois de la terre. Maintenant, il est déjà le chef de roi de la terre. Nous lisons déjà dans Matthieu 28, Jésus est en train de dire à ses disciples, « Toute autorité m'a été donnée sur la terre et au ciel. J'ai l'autorité. » Il a l'autorité. Il règne. Et à plusieurs reprises, Jésus nous est présenté comme celui qui règne déjà. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Alors, la question n'est pas de savoir si Jésus règne. Non, il règne. La question est plutôt, est-ce que Jésus a de l'opposition? Et oui, il a de l'opposition. Ça, c'est la question. Mais ça va durer juste un temps, parce qu'un jour, il n'y aura plus d'opposition. La différence n'est pas s'il règne. 1 Corinthiens 15 montre la souveraineté de Dieu exercée par Christ. Dieu a remis toute autorité entre ses mains et il doit régner sur tout jusqu'à ce qu'il ait tout mis sous ses pieds. Maintenant, aux premiers chrétiens, ces gens, ces chers chrétiens, enfants de Dieu qui souffraient, qui passaient par travers ces moments difficiles, à travers la persécution sous l'Empire romain. Jésus est en train de leur rappeler, écoutez, je veux vous rappeler ceci, c'est qu'au-dessus des trônes de la terre, il n'y a qu'un seul trône, et c'est moi qui est là et qui contrôle. Je contrôle votre vie, je contrôle les gouvernements, je contrôle l'histoire. Nous avons besoin de nous rappeler que Jésus est le chef suprême. Mais vous savez, on peut être un chef, puis on peut être un bourreau aussi, mais pas Jésus. C'est pour ça que Jean continue sa description de Jésus-Christ, puis il dit, il nous aime. C'est un chef qui nous aime. Verset 5 dit ceci, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de tous nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres même pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Il n'est pas seulement le chef suprême, il est un chef qui nous aime. Et l'ultime preuve de son amour, c'est qu'il nous a délivrés. Il nous a lavés de tous nos péchés par son propre sang. L'amour de Jésus, c'est oui, c'est manifesté à l'incarnation. Il s'est manifesté dans ses souffrances. Et ultimement, son amour s'est manifesté lors de son sacrifice. La plus grande manifestation de l'amour de Dieu est la croix. Il a porté nos péchés sur la croix. Il a été brisé, méprisé, rejeté pour nos péchés. Et le châtiment qui nous revenait a été transféré sur lui. Le verset continue en nous disant, « Son amour a fait de nous un royaume des prêtres. » Non seulement il nous a délivrés de nos péchés, mais il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des prêtres. Nous sommes le domaine de son règne. Il nous a déjà sauvés, et nous sommes des prêtres maintenant. Imaginez, là, tu es un prêtre. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu es maintenant un prêtre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être un prêtre? Mais quand tu regardes l'Ancien Testament, un prêtre, ça faisait quoi? Ça faisait deux choses. Premièrement, ça représentait le monde à Dieu. Et nous, de même, ce que nous voulons faire et ce que nous sommes appelés à faire, nous voulons représenter le monde à Dieu. Nous voulons prier pour le monde, intercéder pour le monde, que le monde puisse découvrir Jésus-Christ. Nous présentons le monde à Dieu. Mais le prêtre faisait aussi de représenter Dieu au monde, faire connaître Dieu au monde. Et c'est notre rôle aussi de faire connaître Jésus-Christ au monde. Alors imaginez, vous êtes prêtres, tous ici. C'est pour ça qu'on n'a pas de hiérarchie ici, tous ensemble. Vous êtes tous prêtres. Et pensez-y, là, t'es un prêtre, t'es un représentant de Dieu. Connais-tu l'homme sandwich? Un homme sandwich, c'est quoi? Eh bien, sur Sainte-Catherine à Montréal, je ne l'ai pas vu encore jusqu'ici, sûrement il y en a quelque part, mais à Montréal, Sainte-Catherine, de temps en temps, tu vas avoir un gars se promener avec une pancarte ici, là, une grosse pancarte en bois, puis il va faire de la publicité. En spécial, en ce moment, moins 20%, c'est tel magasin. Et en arrière, c'est la même chose. Il y a un petit cordon ici, puis en arrière, il y a une autre pancarte comme ça, en spécial. Tout de suite, aujourd'hui, ne manquez pas la grosse vente, telle place. Et là, le gars se promène, puis il représente le magasin. Hein? Bien, réalises-tu? C'est ça que t'es. T'es une femme sandwich, un homme sandwich. T'as une grosse pancarte ici, puis c'est écrit, « Je représente Jésus. » Imagine-toi, tu t'en vas dans ton bureau demain matin, il y a des conflits, puis là, t'as une grosse pancarte. Là. C'est gros comme ça, puis c'est écrit, « Je représente Jésus. » Est-ce que ça va influencer un petit peu la manière que tu vas te conduire? « Je représente Jésus. » Tu sais, c'est à peu près comme à Mathieu, je parlais à Mathieu entre les deux périodes, puis il me faisait penser justement aux sportifs, aux grands athlètes. Qu'est-ce qu'ils ont? À un moment donné, les compagnies vont payer des millions de dollars pour Tiger Woods ou d'autres, puis là, ça va être écrit Nike. tu représentes Nike. Puis, je sais pas si vous savez, mais il y a des contrats très épais avec des avocats qui disent, écoute, tu vas te conduire comme ça, tu vas te conduire comme ça, puis il faut pas que tu fasses le fou, puis etc. Parce que là, tu représentes ma compagnie. Puis là, tu as des joueurs de football, puis tout ça, puis c'est écrit en haut, Under Armour. Un gros logo, là. Mais tu représentes notre compagnie, là. Fais pas le fou, là. Alors, vous savez, ce qui est arrivé avec Tiger Woods, lorsqu'il y a eu ses déboires, à un moment donné, il y a une couple de compagnies, des commanditaires, puis là, se sont littéralement retirés. Tu nous représentes. Lorsque tu te promènes, lorsque tu as le logo, tu nous représentes. Et quand tu sors d'ici, tu as un gros logo ici, là. Je représente Jésus-Christ. C'est pas Nike, c'est Jésus. Alors, imagine-toi comment ça... As-tu déjà suivi une voiture, puis il y avait des petites étiquettes en arrière, comme il y avait un poisson, où c'est écrit Jésus, ou aussi, si vous aimez Jésus, poussez le klaxon, puis ça, tu sais, là, tu passes le klaxon, puis le gars se fâche en avant, là, puis... J'aime Jésus! Le gars sort sa voiture. Qu'est-ce que t'as après? Criez pour moi! Jésus! Alors, quand tu rentres demain pour travailler, rappelle-toi d'une chose. Lorsque tu parles à ta femme, lorsque tu parles à ton mari, lorsque tu parles à tes enfants, rappelle-toi d'une chose. Jésus, grosse pancarte. Je représente Jésus. Mon, vois-tu pourquoi tu as besoin de vivre comme si le Seigneur revenait? Tu es un prêtre. Tu représentes le monde à Dieu. Tu pries pour le monde. Tu intercèdes pour le monde. Mais en même temps, tu représentes Dieu au monde. Dans son amour, il a fait de nous des prêtres. Une autre description que nous avons de Jésus, c'est que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et ce qu'on va en voir dans les versets qui vont suivre est la description que nous avons déjà dans Daniel 7, mais pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on tire la conclusion en regardant ça, que Jésus est Dieu. Jean décrit Dieu en la personne de Jésus-Christ, parce que c'est le même langage appliqué à Dieu, à Yahvé dans l'Ancien Testament, dans Daniel 7, mais qui est maintenant transféré sur Jésus-Christ. Ce que tu vois de Dieu dans Daniel 7, tu le vois maintenant dans l'Apocalypse 1. Les mêmes attributs qui appartiennent exclusivement à Dieu, Yahvé dans l'Ancien Testament, Jésus les a. Des attributs non communicables, Jésus les a. Il y a quelques années, un chrétien m'a demandé, il dit, écoute, Normand, pourrais-tu venir cette semaine chez nous? Il y a des témoins de Jéhovah qui ont commencé à venir chez nous. Et là, cette semaine, j'ai des missionnaires témoins de Jéhovah, des gros canons qui s'en viennent et tout ça, puis j'ai des questions, tout ça, j'aimerais ça que si tu pouvais venir. Certainement, on va y aller. Et là, on a commencé à parler, échanger et tout ça, puis à un moment donné, on a regardé l'Apocalypse 1. On a regardé l'Apocalypse 1, puis la description de Jésus, la vision que Jean a de Jésus-Christ dans l'Apocalypse 1. Et à la fin de cette description, après avoir vu tout ça, je pose la question aux missionnaires, témoins de Jéhovah, et je leur demande, écoutez, si on met les émotions de côté, là, êtes-vous prêts à reconnaître au moins que ici, Jésus est Jéhovah? Et humblement, j'étais assez impressionné et surpris. Le missionnaire a dit, je le vois. Oui, je vois, mais je ne l'accepte pas. Nous avons ici Dieu en la personne de Jésus-Christ. D'ailleurs, nous avons la Trinité ici, juste là. Ce passage est très puissant, parce que la description qu'on a ici est la description que l'on donne ailleurs pour Dieu. Et Jean dit au verset 12, « Je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. » Et là, il y a Jésus derrière qui parle d'une voix comme un son de trompette. Et je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Vous voyez, lorsqu'on voit dans les passages, certaines personnes vont regarder dans les Écritures, puis de temps en temps, Jésus est dépeint comme 100% homme. Et là, ils sont troublés parce qu'ils vont dire, regarde, comment tu peux être Dieu, mais en même temps, tu peux être homme, exactement. C'est exactement ça. C'est Jésus, tu vois, dans les Écritures, il y a certains passages qui décrivent Jésus comme 100% homme. Il y a d'autres passages qui le décrivent comme 100% Dieu. Alors, Jésus était fatigué, mais en même temps, il dit, moi, je suis le repos, viens à moi si tu es fatigué, viens à moi. Jésus pleure, il est triste, mais en même temps, il dit, je suis la joie, je ne donne pas la joie comme personne. Je donne la joie parfaite. Alors, on voit les deux dans les Écritures. Et voilà maintenant qu'il donne une description. Jésus est habillé d'une longue robe et porte une écharpe en or sur la poitrine. Maintenant, c'était la façon que les prêtres s'habillaient dans l'Ancien Testament. Mais ici, dans le contexte de l'Empire romain, je pense qu'il faut comprendre cela d'une autre façon. Voyez-vous, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Rome antique, plus que ta tunique était longue, plus que ça voulait dire que tu occupais un rang très élevé. Plus que la tunique était longue, plus tu occupais un rang élevé. Ça parlait de ton statut. Et la même chose pour l'écharpe en or sur la poitrine. Ça indique un statut supérieur. Après tout, il est le chef suprême, il est le roi des rois. Et verset 14 dit, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. » Eh, bon sang, moi, je comprends ça. Oui, je comprends ça, moi. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Et bien sûr, ça parle, c'est le même langage qu'on va retrouver dans Daniel 7 pour Dieu. Et là, dans Daniel 7, on va parler de l'ancien des jours, ça parle de la vieillesse, ça parle de la sagesse. Parce que voyez-vous, dans la communauté juive, on va honorer la vieillesse, on élève la vieillesse. Et ce qui ressort ici, c'est que Jésus a cette sagesse profonde, l'expérience. On peut se fier sur lui. Il a l'expérience. Il est sage, parfaitement sage. Mais en même temps, lorsque tu vieillis, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Tu perds un peu de vitalité. Tu vas perdre. Les yeux vont commencer à changer. Tu regardes les experts, ce qu'ils disent des yeux, ça va commencer à s'affaiblir un petit peu. D'ailleurs, vraiment intéressant, le mot presbytie, en grec, c'est le mot pour vieillard. Il y a quelque chose qui se passe en vieillissant. On va perdre un peu, mais pas Jésus. Regardez ce que ça dit, c'est de Jésus, verset 14. Il dit, « Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Perçant. Il voit tout. Il est omniscient. Il sait tout. Il est sage. Il est omnipotent. Il peut tout et il est omniprésent. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. En d'autres mots, il y a une vitalité, là, la vigueur, l'énergie. Et ses pieds, verset 4-15, étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. En d'autres mots, il est solide, il est puissant, c'est du roc. Tu ne te trompes pas lorsque tu te colles à Jésus. Et sa voix est puissante, comme les bruits de grandes eaux. Imaginez jaser à côté des chutes Niagara. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'ai amené ma fille Katia au chute Niagara. Il y a comme un genre de couloir hein, souterrain. Là, tu marches en dessous de ça. Là, puis là, tu te ramasses sur un genre de belvédère, puis tu peux admirer les chutes Niagara. Puis, tout, puis là, j'essayais de parler à Katia. Je trouvais ça vraiment beau. Puis là, j'étais comme ça. Puis elle était là. « Comprends pas! Qu'est-ce que tu dis? » Puis là, il y avait des chutes. Et c'est ça ici, sa voix, la voix de Jésus est puissante. Elle est claire par contre, elle est claire comme le son d'une trompette, mais en même temps, elle est puissante. Tu sens la puissance. Et ça, sa voix est comme ces eaux puissants, là. Des bruits de grandes eaux, solides, puissants. Verset 16, il tenait dans sa main droite sept étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Maintenant, on va apprendre plus loin que les sept étoiles sont les anges, les sept églises, les sept chandeliers sont les sept églises. Ce que nous avons donc ici, c'est Jésus, c'est dans sa main droite, les églises se trouvent, les enfants de Dieu se trouvent dans sa main droite, et la main droite, vous savez, dans les Écritures, c'est l'image pour la puissance, l'autorité. Et Jésus est en train de nous dire, « Je contrôle, je suis au contrôle de ta vie, de ton église, je suis au contrôle dans ma main puissante, la main droite. » Et verset 16 dit, « De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. » Et ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Pourquoi deux tranchants? Bien, d'un côté, elle blesse. Et de l'autre, elle guérit, elle panse les plaies. C'est ça qui est merveilleux avec la parole de Dieu. De temps en temps, elle confronte, elle coupe, elle est très précise. Elle veut essayer d'enlever une tumeur, le cancer de ta vie, le péché de ta vie. Elle va te confronter. Mais d'autres tantôt, elle ne te laisse pas là, à juste te sentir mal, coupable, écrasé par le poids et la culpabilité de ton péché. Non, la même parole qui te reprend, qui te corrige, va te panser, t'entourer, te guérir, te soulager, pour que tu puisses te relever maintenant, plus sain et marcher avec Dieu. Amen. Ah, merveilleux. L'épée à deux tranchants. Et verset 16, son visage était comme le soleil qui brille dans sa pleine force. Imaginez, être... Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Cancun. J'étais à Cancun, sur le bord, sur le balcon, je m'ennuie. Tout d'un coup, je pense à ces beaux souvenirs. J'aimerais bien ça. Je vois l'hiver s'en venir, la neige et tout ça, là. Mais À Cancun, hein? OK. En tout cas, fait que j'étais à Cancun, j'étais assis sur le balcon, puis là, il y avait de l'ombrage. On attendait justement un transport, puis on était assis sur les marches et tout ça. Et j'avais ma main comme ça, là. Et il y avait de l'ombre partout, sauf un petit rond comme ça, qui était au soleil. J'avais ma main comme ça, j'étais assis sur les escaliers. J'avais un tout petit rond où le soleil touchait. Brûlé. Imagine-toi, en plein midi, un soleil là, d'été, il est midi, tu regardes, tu es à l'extérieur, puis tu essaies de fixer le soleil. Tu regardes le soleil. Sais-tu que ça ne prend pas grand temps que tu perdes la rétine? Très dangereux. Tu ne peux pas faire ça. Et voici le visage de Jésus. Ça brillait. Et devant la gloire éclatante de Jésus-Christ, Jean n'en peut plus. Jean s'écrase, ses genoux plient. Il n'en peut plus. Il s'effondre devant la gloire de Jésus. Et nous lisons au verset 17. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. » Et ça, c'est notre sauveur. Hein? « N'aie pas peur. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. » Imaginez Jean qui est sur l'île de Patmos, qui c'est dimanche, le jour du Seigneur, et là, il y a là cette révélation de Jésus glorifié. Est-ce que je peux vous dire que ces troubles, ces épreuves, cette persécution ne sont rien à comparer de l'éclat et la beauté, la gloire de Jésus, de cette vision qu'il voit de lui? Jésus détient les clés de la mort et du séjour des morts. Quel encouragement de savoir que c'est lui qui a le dernier mot. Il a l'autorité sur la mort et sur l'éternité. Il est le maître de l'éternité. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a un verset prophétique sur cet enfant qui va naître, qui parle de l'incarnation. Un enfant naîtra, on l'appellera, il donne une série de noms, puis à un moment donné, on l'appelle Père éternel. Une expression dans l'Antiquité qui voulait dire un maître de quelque chose. Et cet enfant qui va naître sera le maître de l'éternité. Il contrôle le temps, il contrôle l'éternité, il contrôle l'histoire. Voyez-vous pourquoi nous voulons vivre à la lumière de son retour? Nous voulons nous débarrasser de tout ce qui ne lui plaît pas et tout ce qui ne lui rend pas gloire, parce que Dieu est au contrôle, parce que Jésus revient dans sa gloire. Mais il y a une troisième raison. Dieu est au contrôle, Jésus revient dans sa gloire. Il est témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Il est le chef des rois de la terre. Il nous aime et il est Dieu. Mais la troisième raison, c'est que Dieu, c'est là que tu vas être heureux. Dieu promet le bonheur. C'est en marchant avec lui, en cherchant à lui plaire, que tu vas vraiment être heureux. Et tu vas être heureux de façon parfaite lorsque tu vas entrer dans l'éternité, pour toujours. Et c'est ce que dit le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Vois-tu, tu veux lire les Écritures, tu veux développer cette habitude spirituelle, des bonnes pratiques spirituelles, de prier à tous les jours, mais aussi de lire les Écritures. Mais ce que tu veux après ça, c'est de traduire, mettre des jeans à ça, mettre des bottines à ça. Tu veux lire les Écritures, puis après ça, mettre en pratique, obéir, suivre la parole qui est révélée. Alors, vivons comme si Jésus revenait. Amen. Car Dieu est au contrôle, il revient dans la gloire, et c'est là vraiment, c'est là que tu vas être heureux. Et Dieu promet de te bénir. Est-ce qu'on va connaître des temps difficiles? Absolument, Jean les connaissait, les chrétiens connaissaient des temps difficiles. Mais Dieu veut te rappeler qu'il est toujours au contrôle. Il était, il est, et il s'en vient. Je me rappelle ce témoignage de ce couple en Chine. Vous savez, en Chine, c'est communiste. Ils n'étaient pas le droit de prêcher la parole librement. Ils ne donneront pas le droit de faire cela. Et il y avait un homme, son mari, Alan Yuan. Imaginez, il a été jeté en prison parce qu'il prêchait la parole de Dieu et qu'il n'a pas voulu s'associer au gouvernement pour faire des choses qui n'honoraient pas Dieu. Et il a été jeté pendant plus de 22 ans en prison. Imaginez, là, parce qu'il a prêché la parole de Dieu, 22 ans de prison. Imaginez comment c'était difficile pour sa femme, qui était aussi une mère, qui avait 5 enfants. Elle prenait soin de 5 enfants à la maison, en plus de sa belle-mère. puis il était pauvre parce que, voyez-vous, il était considéré comme une contre-révolutionnaire. Donc, il n'avait pas le droit d'avoir un emploi qui payait assez pour prendre soin de sa famille. Le seul travail qu'elle avait le droit d'effectuer, de faire, était de transporter des débris de construction dans un gros chariot lourd et le transporter, transférer d'un site à un autre site. Alors, elle était pris. Puis encore là, ça ne payait pas assez. C'était toujours serré. Des fois, c'était difficile de... Et là, un soir, sa belle-mère arrive, elle va le voir, puis sa belle-mère lui dit, « Écoute, il n'y a même plus de riz, il n'y a plus rien pour les enfants demain matin. Il n'y a plus de riz, plus rien. » Oh, mon ami, c'est tellement décourageant. Et la femme, elle s'appelle Alice, la femme, elle dit, « As-tu déjà été en colère contre Dieu? » Elle était vraiment découragée, puis elle s'est mise en colère. Là, elle ne pouvait plus. Elle dit à Dieu, elle dit, franchement, elle dit, tu m'avais promis que tu prendrais soin de moi. Ah, là, elle était frustrée en dedans d'elle et tout ça. Elle est allée prendre les Écritures. C'est ce qu'il faut faire quand tu es en colère contre Dieu. Tu vas prendre les Écritures. Elle était découragée. Elle va prendre les Écritures, prendre la Bible. Et elle est tombée sur Matthieu 6, où Dieu dit, je prends soin des oiseaux et je vais prendre soin de toi. Alors, elle a pris sa Bible et... Là, elle se sentait mal, évidemment. Elle a demandé pardon à Dieu pour son attitude. Et elle a fermé la Bible, est allée se coucher dans le calme, dans la paix, elle était tranquille. Le lendemain matin, à 6 heures, ça cognait aux portes, à la porte. Alors, elle s'est levée, elle a mis sa robe de chambre, elle est partie à la porte ouvrir. Puis, il y avait une femme qui était là, une inconnue, elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas cette femme. Et la femme, dehors, avait une boîte dans ses mains. Alors, elle a dit, entrez, entrez. Puis, tout de suite, elle a couru près du fourneau pour préparer du thé et tout ça. La personne a dit, non, je ne resterai pas. Mais j'ai cette boîte pour vous. Alors, elle dépose la boîte, cette étrangère dépose la boîte et elle se préparait à quitter. Puis, elle dit, non, elle dit, écoutez, c'est quoi votre nom? Comment vous vous appelez? Et la femme a répondu quelque chose de vraiment étrange. Elle a dit, non, j'ai pas de nom. Mais je veux que tu ouvres cette boîte, il y a quelque chose pour toi, et je veux que tu remercies le Seigneur pour ce qui se trouve dans la boîte. Et la personne, cette étrangère, a quitté. Et là, Alice arrive, elle approche de la boîte, elle ouvre la boîte, et il y avait du riz en abondance, il y avait de la viande, des légumes, il y avait même une enveloppe avec de l'argent, l'équivalent de plus de 2 mois de salaire. Est-ce que Dieu est au contrôle? Hein? J'ai contrôlé le passé. J'ai contrôlé l'histoire. Je contrôle l'avenir. Donc, je peux contrôler ton présent. Je peux prendre soin de toi aujourd'hui, maintenant, dans ton présent. Alors, nous voulons vivre à la lumière de la fin des temps, à la lumière du retour de Jésus-Christ. Parce que Dieu reste au contrôle. Parce que Jésus revient dans la gloire. Et honnêtement, c'est là que tu vas vraiment être heureux dans ton cœur. Amen. Seigneur notre Dieu, oh Seigneur, nous voulons tellement te remercier parce que nous te devons tout. Tu as déjà prouvé ton amour à la croix. Et nous voulons te louer, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons t'adorer ensemble. Nous voulons être plus nombreux de personnes qui se détournent de leurs péchés, se repentent pour qu'ils viennent nous accompagner dans l'adoration. Nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que tu es digne d'être adoré. Alors, cette semaine, alors que même d'ailleurs tout de suite, lorsqu'on va quitter ce bâtiment, donne-nous de nous rappeler que nous sommes des prêtres, nous représentons Dieu au monde pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.